voilà, c'est pas grave. On va entrer dans le vif du sujet. On devait entendre un peu quelque chose. C'est bon. Merci, merci Sandra. Voilà. Bonjour chers amis. On entre dans le vif du sujet, comme Pauline nous l'a déjà annoncé tout à l'heure. Merci, merci pour les chants aussi qui ont été proposés. Et c'est vrai d'avoir un équilibre dans la personne de Dieu, entre la sainteté de Dieu, son amour. On a entendu tout cela. C'est très important d'avoir vraiment le Dieu de la Bible et tout ce que cela comporte. Alors, je ne sais pas, en entendant ce bruit, qu'est-ce que vous ressentez ? Un peu de peur, hein, quand même. C'est un peu menaçant, quand même. Alors bon, quand on voit un lion derrière une cage aux zoo, que ce soit à Crémines ou aux zoos de Bâle, c'est encore un peu rigolo. Mais vous allez dans la forêt, puis vous entendez un bruit comme ça. Oui, vous grimpez au premier arbre que vous avez devant vous, j'imagine. Moi, j'aurais du mal à grimper, moi, maintenant. Quand on était plus jeune, ça allait mieux, c'est vrai. Voilà, on entre donc dans Amos. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Je vous propose d'abord de penser à l'état de notre monde, de notre société. On a certainement tous ces questions qui reviennent de temps en temps. Est-ce que Dieu voit l'injustice ? Est-ce que Dieu voit la corruption, la pauvreté dans notre monde ? Est-ce qu'il permettra aux orgueilleux, aux arrogants, aux pervers. Je lis, j'arrive à la fin de ce livre ici, gouvernance perverse. Comment la décoder, s'en libérer. C'est une psychologue française, Marion Saint-Michel. C'est remarquable ce livre. Il se passe de l'autre côté de la frontière, du côté ouest. Ben, c'est assez inquiétant. Gouvernance perverse. Oui, est-ce que Dieu permettra aux orgueilleux, aux arrogants, aux pervers de continuer leur manœuvre sans opposition pour toujours ? Des grandes questions. Alors, face à ces questions, même parfois les croyants remettent en question la bonté de Dieu et se disent, mais est-ce que ça vaut la peine de suivre Dieu ? Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus ? Alors, ce qui est beau, c'est que la Bible nous offre le point de vue de Dieu sur ses préoccupations légitimes, peuvent être les nôtres, de temps en temps. Et en résumé, la Bible dit ceci, les personnes arrogantes et corrompues peuvent profiter de leurs richesses, leur pouvoir, mais un certain temps. Cependant, elles restent totalement responsables devant Dieu et devront finalement faire face à son jugement. Voilà, le mot est prononcé, on l'entendra souvent, hein, ces prochaines prédications, le mot jugement. Mais ça ne doit pas nous faire peur, nous, le mot jugement. C'est ça qui est extraordinaire, en fonction de ce qu'on a chanté, de notre foi en Jésus-Christ. Alors Dieu avertit d'un jour à venir où sa patience prendra fin brusquement. Oui, Dieu est saint et juste, on l'a chanté, il est le juste juge de tous les peuples. Ça fait partie de ses prérogatives. De créateur, de roi de l'univers, de souverain de ce monde qu'il a créé. Oui, l'Éternel rugit. Est-ce que nous l'entendons ? Et à tous les dirigeants de notre monde, mais aussi aux simples citoyens, comme la majorité d'entre nous ici dans cette salle, eh bien, il nous dit cette parole. On connaît tous d'Amos, hein, si un verset qu'on connaissait dans Amos, c'est certainement celui-là. « Prépare-toi la rencontre de ton Dieu. » Toujours est impressionnant, en traversant la vallée de Tavannes, il y avait une maison à l'entrée de Bévilla où il y avait ce verset « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Alors le conseil pastoral a défié le groupe des prédicateurs et prédicatrices. Il nous a proposé pour ce semestre donc, le livre d'Amos. Et nous avons été d'accord de relever le défi. Et ce livre contient justement un message qui tourne autour de ces questions importantes que je viens d'évoquer. Alors lisons simplement les premiers versets du début du livre. Ce sera aujourd'hui donc une introduction en essayant de donner quand même une vue d'ensemble pour pouvoir ensuite continuer ensemble dans ce livre, dimanche après dimanche. Et ce ne sera pas systématiquement chaque dimanche, donc bien évidemment, ce sera jusqu'à l'été. Nous lisons « Parole d'Amos ». Qui était parmi les bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, l'Éternel rugit de Sion, il fait entendre sa voix de Jérusalem. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Sion, c'est où ? Vous connaissez un petit peu cette photo, Jérusalem, hein ? Là où il y avait le temple, maintenant il y a des mosquées, hein, on voit la vieille ville avec la muraille, bien, c'est là Sion, c'est cette colline où il y avait le temple. C'est à Jérusalem. Amos, c'est un petit prophète, 1m60. Non, ce n'est pas une question de taille, on est bien d'accord. Ça a été défini à un moment donné qu'on disait que les 12 derniers livres de l'Ancien Testament, on a dit que c'était les petits prophètes parce que justement ils ont des textes plus courts que les grands prophètes, hein, que sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Alors je vous propose pour cette introduction simplement 4 questions. Quand, qui, où et quoi ? Alors d'abord, quand ? Quand Amos a-t-il vécu ? Quand a-t-il donné son message ? Le texte dit 2 ans avant le tremblement de terre. Ça ne devait pas être 3,5 sur l'échelle de Richter, hein, ce tremblement de terre-là, on est bien d'accord. Ça devait être un peu plus. Alors Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, vous le savez, dans ses textes, il situe ce tremblement de terre vers 760 avant Jésus-Christ. Ça a dû être terrible. Ici, dans la région, il y a eu un tremblement de terre terrible dont tout le monde se souvient, on est d'accord. C'est où ? À Bâle, en 1356. Pas grave, pas grave. 1356, c'est des événements, hein, qui marquent l'histoire, ces choses-là. Ce jour-là, il y a eu une chose terrible. Et Samuel Cugy parlait d'un événement qui s'est passé il y a 100 ans. Un jour de juin cette année, 1926, exactement 100 ans, une tornade est partie de la Chaux-de-Fonds en direction des Breuleux. La Chaux-de-Breuleux, elle s'est arrêtée là, a balayé des toits, des beaux sapins des Franches-Montagnes, sur des centaines de mètres de large. Vous allez aux Franches-Montagnes, moi, les premières fois où j'allais au travail aux Franches-Montagnes, j'ai entendu ces choses-là. Et je me suis dit, ouais, ben, ça devait quand même être quelque chose de frappant. Revenons. Ici, au moment où Amos a apporté ce message, il est question aussi au début de ces 2 longs règnes, d'Ozias pour Juda et de Jéroboam pour Israël. Et là, ça recoupe. On est aux environs de 760 avant Jésus-Christ, comme donc Flavius Joseph situait cet événement. Alors, je me permets un tout petit retour en arrière quand même. Pour le contexte, environ 3 siècles avant, le peuple d'Israël, qui était un, qui était uni, rappelez qu'il avait été choisi par Dieu, ce peuple qui était sorti d'Égypte d'une manière miraculeuse, avec lequel Dieu avait fait alliance au mont Sinaï, qu'il avait mené à travers le désert pendant 40 ans et fait entrer dans cette terre promise. Eh bien, ce peuple qui était là, ils ont réclamé un roi. Comme si Dieu n'était pas un roi suffisant. Et il voulait un roi comme les peuples alentours. Et Dieu a été d'accord, et les 3 premiers rois furent Saül, David et Salomon. Ils ont régné 40 ans chacun. Et on voit les limites d'Israël, quand elles ont été les plus étendues, c'était du temps de David. C'est ce qu'on appelle le grand Israël. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à l'actualité, on accuse Netanyahou de vouloir rétablir le grand Israël. Je referme la parenthèse. du fleuve de l'Égypte à l'Euphrate. Alors, le fleuve de l'Égypte, ce n'est pas le Nil, c'est un oued dans le Sinaï, donc jusqu'à l'Euphrate. Sur le dia suivant, on voit un territoire moins étendu. Et suite au règne de Salomon, il y a eu un schisme vers 950 avant Jésus-Christ, avec au nord le royaume du nord, le royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Et là, on a eu des rois qui se sont succédés, qui ont été systématiquement idolâtres. Il est dit d'eux, chaque fois, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et le royaume du sud, avec deux tribus, et on appelait le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, avec quelques rois idolâtres, mais aussi des rois qui craignaient Dieu, dont il est dit d'eux, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Les limites des territoires, on voit cette ligne violette à peu près au milieu qui marque la séparation entre le nord et le sud. Juste au sud de cette ligne, il y a Jérusalem. Avec Bethléem et Tekoa, qui sont proches. Et on voit aussi six peuples, les Philistins. Six peuples dont on va reparler. Le royaume d'Israël lui a pris fin vers 720 avant Jésus-Christ. Les Assyriens ont envahi et ont déporté le peuple, une partie du peuple en tout cas. Le royaume de Juda, lui, a pris fin par vagues successives des 606 par les Babyloniens sous Nebuchadnezzar et jusqu'en 586 où là il y a eu la destruction du temple à Jérusalem. Alors une vue d'ensemble de ces repères historiques. 950, donc le schisme, royaume du nord, royaume du sud, vers 760, la prophétie d'Amos. Sur qui les prophéties, on le verra, ces peuples alentours que j'ai mentionnés, sur Juda et principalement sur Israël. Principalement sur Israël. Jonas, Osée et Ésaïe étaient des contemporains d'Amos. Et 40 ans donc après la prophétie d'Amos, eh bien, il y a eu la chute du royaume d'Israël. Et un peu plus d'un siècle plus tard encore, la chute donc du royaume de Juda avec la destruction du temple. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'était annoncé qu'il y aurait un retour de l'exil pour Juda 70 ans après. Eh bien, le temple a été détruit en 586 et en 516, 70 ans plus tard, le nouveau temple a été inauguré. Extraordinaire, hein, la précision de la prophétie. Extraordinaire. Voilà. Le contexte, vers 760, donc avant Jésus-Christ, pour Israël, il y avait eu des succès militaires, c'était donc une paix assez relative qui était là, mais néanmoins, une stabilité politique, une prospérité économique, et il faut bien saisir, c'est la constitution d'une aristocratie opulente, donc les gens au pouvoir, hein, les gens au pouvoir, qui vivaient dans un grand luxe, on parlerait aujourd'hui d'oligarchie. Et on a bien des exemples qui ne sont pas très loin de nous. Voilà. Alors, quand, maintenant, qui est Amos? On a une photo? Non, une présentation. Il n'est pas cité explicitement dans d'autres livres de l'Ancien Testament, Amos. C'est seulement au travers de ce livre ici qu'on apprend à le connaître. Amos, c'est un berger, il a été pris derrière son troupeau, quelqu'un de simple qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais que Dieu a utilisé. Que Dieu a utilisé. Et un responsable religieux, Amatsia, qui était prêtre à Bethel, dans le nord, donc, qui contestait le ministère d'Amos, qui disait, mais qu'est-ce que tu viens nous raconter? Eh bien, Amos a simplement dit ceci. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Amos était berger, c'est déjà tout un message. Dieu le voulait comme berger pour le peuple. En ce temps-là, il y avait des vrais bergers, comme Amos, et des faux bergers, comme Amatsia. Vous savez aussi, les noms juifs ont une signification. Et Amos, ça signifie fardeau, porteur de fardeau. C'est aussi déjà tout un message. Amos devra apporter des choses difficiles au peuple. L'Éternel rugit, entendu. Et en même temps, un serviteur de Dieu doit être prêt à porter des choses difficiles, surtout dans un temps d'apostasie, de rejet de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un tel temps, un Occident post-chrétien, même anti-chrétien. On n'a franchi ce pas-là maintenant. On a inversé les valeurs dans notre société. Et souvent, le monde influence davantage l'Église que le contraire. Il y a aussi un autre livre ici, qui parle justement du ministère pastoral. C'est d'un Paul Tripp, que j'apprécie beaucoup cet auteur, et qui parle du ministère pastoral comme un appel dangereux. Appel dangereux. Alors, comment vous vous situez par rapport à la recherche que nous faisons actuellement au niveau de notre Église, au niveau pastoral, donc? Est-ce que vous êtes acteur dans le processus? Par la prière, bien sûr, évidemment, ou alors simplement observateur, spectateur? Alors, c'est vrai que le ministère pastoral, il est porté par l'ensemble du conseil pastoral. Alors, ce n'est pas toujours facile, il y a des défis. Alors, prions pour nos frères et sœurs, conseil pastoral. On parle d'un élargissement que le Seigneur nous donnera bientôt. Nous prions pour cela. Et prions aussi pour les recherches au niveau d'un ministère pastoral rémunéré. Revenons à Amos. Fardeau. On peut transposer cela aussi pour nous, parce que le fardeau, il n'y a pas que le conseil pastoral qui le porte. Chacune, chacun, qui avons à cœur d'apporter l'Évangile à nos contemporains. Et ce n'est pas facile d'apporter un message de jugement à nos contemporains. Alors l'Évangile, ce n'est pas que ça, on est bien d'accord. Mais c'est aussi ça. Alors portons-nous ce fardeau des âmes? Comment parler à nos contemporains? Dans une société où les deux valeurs suprêmes sont le pluralisme et la tolérance, sauf par rapport au christianisme, à la Bible et à Jésus. Mais sinon, tolérant pour tout dans nos sociétés. J'étais dernièrement chez des amis. Il y avait une voisine, amie, qui était là. Et elle m'a dit, mais vous connaissez comment? Je lui ai dit, mais c'est par l'Église. Ça nous a amené directement à la discussion par rapport aux choses de Dieu. Et puis elle m'a demandé, mais pourquoi vous vous occupez de ces choses-là? Puis alors j'ai un petit peu raconté mon cheminement, puis après j'ai retourné la question, et vous-même? Il a dit, au moins, pour moi, toutes les religions se valent. Et puis moi, je lui ai aussi posé la question, mais est-ce que vous avez lu la Bible, en tout cas le Nouveau Testament? Puis il a dit, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'important, c'est le partage, la relation à l'autre, etc. Je dis, l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà. C'est tragique, ça fait mal d'entendre cela, et le défi pour nous, c'est de trouver le chemin des cœurs. Alors, je ne dis pas que je l'ai trouvé ce jour-là. J'espère que les quelques partages qu'on a pu avoir ont pu interpeller et faire réfléchir cette dame et nos amis, chez qui j'ai été pris certainement pour elle. Alors qu'il y a Amos, un berger, il est appelé par Dieu, porteur de fardeau, il devient prophète du Seigneur. La question suivante, où? D'où vient Amos? Où donne-t-il son message? On l'a vu, donc c'est au sud de cette ligne violette au milieu, là, au sud de Jérusalem, Tekoa. Et Dieu lui demande de parler au nord. Il vient du sud, il lui demande de parler au nord. Mais Amos, ainsi, a une vue d'ensemble du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu même divisé, puisqu'il y avait eu ce schisme. Et Amos aime le peuple de Dieu, partout où il est, que ce soit au sud ou au nord. Je crois que c'est une leçon aussi pour nous. C'est important de considérer tout le peuple de Dieu, d'aimer tout le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, même avec ses divisions. Avec l'histoire de l'Église, de ces 20 siècles, il y a eu pas mal de divisions. Il y a eu des grandes divisions, même historiques, le grand schisme en 1050, où là, il y a eu les deux chefs à Rome et à Constantinople qui se sont excommuniés mutuellement avec l'Église d'Occident et ensuite l'Église d'Orient qui ont avancé en parallèle pendant des siècles jusqu'à maintenant. Il y a eu la réforme avec Luther, qui ne voulait pas faire une nouvelle Église. Et voilà, ça a donné cela. Et la mouvance évangélique est issue du protestantisme. L'histoire de la mouvance évangélique, c'est aussi une suite de, quand même, divisions. Souvent, c'est la multiplication par la division. Et il y a beaucoup d'unions d'églises, de fédérations d'églises. Et j'ai demandé à Judith, Gérard n'est pas là ce matin. Non, parce que lui, il a une bonne mémoire, hein, puis il était là déjà en 1967. Dans Brüderverein, il y a une division, là. Et nous venons de là, Assemblée missionnaire. Intéressant de savoir l'histoire de notre Église. Elle aussi pourrait certainement raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Bref, mais ce qui est beau, c'est que les responsables des deux Églises que ça a donné, ou des deux fédérations, se sont demandé pardon. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Et ce qui est beau aussi maintenant, c'est que nous pouvons vivre des belles choses avec nos frères et sœurs. Ça ne s'appelle plus le Brüderverein, ça s'appelle l'Église pour Christ. Voilà, de ce passé relativement récent, qu'est-ce que c'est, hein, 40-50 ans, on est d'accord. Alors, essayons de voir cette diversité plutôt comme une richesse. Ça change tout. Ça change tout. Certains, voilà, boudent dans leur coin, si je peux dire comme ça, toutes ces églises, pour moi, c'est fini. Mais non, voyons ça comme une richesse. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai, il y a la doctrine. Hein, les différences, on veut tous une doctrine pure, fondée sur la parole de Dieu. Et si on poussait à l'extrême, il y aurait une église par chrétien. Ce qui est impossible. Parce que pour faire église, il faut être au moins deux ou trois. Alors je ne dis pas cela pour minimiser la doctrine, hein, vous me connaissez trop bien. Vous connaissez trop bien. Mais il y a une autre réalité, c'est que malheureusement, on a fait de l'évangile trop souvent une question de pouvoir. De lutte de pouvoir, avec beaucoup d'abus, de toutes sortes, encore aujourd'hui, alors que Jésus, lui, il a lavé les pieds de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors voilà, considérons l'ensemble du peuple de Dieu. Et me permettre de faire une allusion à la semaine universelle de prière, avec des choses magnifiques. Avec nos frères, nos sœurs, des autres églises évangéliques du Jura. Et ce qui est beau aussi, c'est que la persécution des chrétiens, c'est un thème rassembleur. Nous étions au mois de décembre, le 10 décembre, je crois, devant les magasins, on était une quarantaine, hein, de chrétiens, là, pour une demi-heure de prière silencieuse en faveur des chrétiens persécutés. Et à la fin de ce moment, il y avait une dame, 80 ans, qui... Nos regards se sont croisés, et puis elle m'a dit, je connais peu de monde ici. Je viens de Bure, je suis catholique, j'ai vu l'annonce dans le journal, je dis à mon mari, il faut qu'on aille là pour les chrétiens persécutés, c'est important. On a eu un excellent contact. On s'est présenté, Pierre Simonin, ah, vous qui écrivez des articles dans le quotidien. Alors voilà, on a eu un moment de communion remarquable, remarquable. Je pense à Jean-François. Jean-François, il est où ? Lève la main, Jean-François. Ah, voilà, on s'est vu à Yverdon. Non, c'est toi, Jean-François, effectivement. On s'est rencontrés à Yverdon, à une rencontre de portes ouvertes. On a fait connaissance. Magnifique, il est là ce matin. Il va nous partager avec le témoignage des Gédéons. C'est merveilleux, c'est merveilleux. La grande famille de Dieu. Je profite encore en parlant du Nord et du Sud. Hein, Jean-François. Dans le Jura, c'est vite évocateur. C'est vite évocateur. Alors, le 28 février à Tavannes, on a l'occasion de vivre une journée au Sud avec des chrétiens du Sud. Une magnifique opportunité de pouvoir faire connaissance, des belles connaissances, avec des frères et sœurs de là-bas. Je vous encourage à vous inscrire, encore de la place, bien sûr. On arrive à la dernière question. Quoi ? Quel message ? Alors, il est dit, parole d'Amos, c'est les dias. Voilà. Parole d'Amos, vision qu'il eut sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Alors ça, c'est la suite, hein, Jean-Marc. Je vais essayer de ne pas trop parler de la suite. C'est toi qui prendras le relais, donc dimanche prochain, c'est vrai. Et on l'a vu, donc, Amos est un prophète. Prophète, ça veut dire porte-parole. Ils disent que Dieu veut qu'il rappelle au peuple de la parole de Dieu. Alors le prophète annonce aussi des choses qui doivent arriver. Hein, il y a les deux aspects, hein, être messager de Dieu et puis dire des choses qui vont arriver. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes. Alors ces faux prophètes, eux, ils annonçaient des choses qui devaient arriver, et parfois elles arrivaient, parfois elles n'arrivaient pas. Alors ça, il ne faut pas écouter du tout. Ça, c'est les faux prophètes. Par contre, les vrais prophètes de l'Éternel, eux, tout ce qu'ils annoncent qui devait arriver est arrivé ou arrivera encore. On a dans le livre 60 fois l'expression « Ainsi parle l'Éternel, parole de l'Éternel, dit l'Éternel ». Donc c'est Dieu qui parle, c'est vraiment Dieu qui parle. On a ici le miracle de l'inspiration, hein, pas seulement pour le livre d'Amos, mais pour toute la Bible, de Genèse 1 à Apocalypse 22, 21. Toute la Bible est la parole de Dieu. Une quarantaine d'écrivains qui ont tous été là, inspirés, hein, par Dieu, sans perdre leur individualité, leur personnalité, et qui prononcent des paroles qui ne viennent pas d'eux-mêmes, mais qui viennent de Dieu. Et Amos reçoit cet appel pour parler au nom de Dieu. Il n'a pas, a priori, de prédisposition particulière. Hein. Dieu aurait pu prendre un sacrificateur, peut-être que ça aurait plus porté. Mais non, il a pris Amos comme un prédicateur là, de plein air, pourrait-on dire. Alors on peut se poser la question par rapport à nous. On pourrait dire « je suis qu'un simple berger ». Et pourtant, dans la vie normale, dès le lundi matin, que ce soit ta vie, ma vie, un livre ouvert, mes paroles, tes paroles aussi, nos attitudes, ça peut davantage interpeller que des sermons à la messe le dimanche, ou des prêches au temple le dimanche, ou même des prédications, l'AMD, le dimanche matin. Ne sous-estime pas l'impact de ta vie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens de donner du crédit à l'Évangile. Celui-là, il se dit chrétien, ben, c'est vrai que ta vie m'interpelle. Ou dans l'autre, celui-là, il se dit chrétien, mais il vit n'importe comment. Nos vies parlent, chers amis, nos vies parlent. Alors, aucun chrétien n'est parfait. Hein, ce n'est pas là le problème. Et nous sommes tous perfectibles, jusqu'à notre dernier souffle. Le passé, il est passé. Quand il y a eu une réelle repentance, qu'on a reçu le pardon du Seigneur, qu'on a pu vivre sa grâce. J'entendais un frère dernièrement qui parlait d'un grand coup de chiffon. Ça illustre bien, hein, ce que Dieu fait dans nos cœurs, ce qu'il peut faire dans nos cœurs. Ça peut être à la conversion, bien sûr, c'est le point de départ, mais ça peut être après d'autres moments de la vie. Nous nous sommes égarés, eh bien c'est ça qui est extraordinaire. Et on a un chemin devant nous qui nous est proposé, c'est le chemin de la sanctification, de grandir dans cette relation avec le Seigneur. Alors voilà, qu'est-ce qui résiste en moi par rapport à cette proposition du Seigneur d'avancer, de continuer sur ce chemin de la sanctification? Disons-le au Seigneur et comptons sur lui pour avancer. Alors Amos va annoncer des jugements, comme on l'a dit, et ça se passera par cercles concentriques. Le premier cercle, c'est pour les peuples environnants, qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, je ne les répète pas maintenant. Alors de quoi Dieu les accuse? Eux, ils n'ont pas la Torah, la loi de Dieu, comme le peuple d'Israël. Alors, on pourrait dire, mais ils ne savent pas vraiment ce qui est bien et mal. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des êtres humains. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont donc une conscience. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne descendons pas des animaux, nous les humains. Et l'apôtre Paul dit ceci, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tous les hommes, sans exception. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle. Le fait d'être humain fait qu'il y a quelque chose d'écrit en nous. Et ces peuples, eh bien, leur humanité les rendait responsables devant Dieu de leurs abus envers des personnes faites à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui est inscrit en nous, en chaque être humain ? Pas mentir, pas voler, ne pas tuer, caractère sacré de la vie, respecter le mariage, la vie de la sexualité dans le cadre du mariage que Dieu a prévu, ne pas entrer dans l'adultère. Vous me direz, conscience, ça peut être plus ou moins élastique parmi nos semblables. Et ici, dans ces peuples, il y avait beaucoup de cruauté, de sauvagerie. Ils étaient aussi sans pitié vis-à-vis d'autres peuples. Ils faisaient des captifs qu'ils prenaient en esclavage. Ils ont assassiné des femmes enceintes. Ils ont profané des ossements humains. On entendra tout cela dans ce livre. Mais Dieu voit cela et il va juger selon ses normes saintes. Et ce n'est pas la puissance militaire qui va empêcher Dieu de juger ses peuples. On investit des centaines de milliards aujourd'hui dans l'armement sur la planète, la folie. Ce n'est pas cet armement qui va protéger ses peuples du jugement de Dieu. On le verra, ces jugements peuvent paraître peut-être sévères, mais ils correspondent à la gravité des crimes commis par ces peuples. Alors voilà, la suite, ce sera Jean-Marc dimanche prochain. J'espère que je ne vais pas aller trop loin, Jean-Marc. Alors les auditeurs ont dû se dire, mais tant mieux pour eux, c'est nos ennemis. Si Dieu fait tout ça, tant mieux pour eux. Mais il y a un deuxième cercle qui arrive, c'est cette fois Judas. L'étau se resserre. Alors de quoi Judas est accusé? Ce sera Guylaine, là, le 8 mars, j'anticipe pas trop Guylaine. Dieu les accuse de quoi? C'est très court. Eux, effectivement, ils ont reçu beaucoup plus que la loi naturelle. Ils ont reçu la loi divine, ils ont reçu la Torah, même écrite du doigt de Dieu. Hein, les tables que Moïse a reçues, écrites du doigt de Dieu. Mais ils ont méprisé la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Ils n'ont pas gardé ses ordonnances, ils sont allés auprès de faux dieux. Et Dieu va juger Judas pour cela. Alors c'est vrai que Judas a eu un sursis, hein, puisque c'est arrivé vers 600, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est annoncé viendra. Et les auditeurs d'Amos, du Nord, alors, ont dû se dire, « Ouf, c'est pas pour nous, c'est pour ceux du Sud. » C'est alors que, voilà, l'étau se resserre, le dernier cercle, c'est le gros morceau, et Amos est justement là pour cela. Il va juger aussi Israël, et même plus rapidement que Judas. C'est tout le reste du livre. Alors là aussi, je ne vais pas trop m'étendre. Alors, il y a les atteintes à la loi naturelle, bien sûr, mais bien sûr à la Torah. Ils ont vendu des innocents pour du profit. Ils ont maltraité les pauvres. Ils avaient une grande débauche. Il y avait une grande débauche sexuelle. Ils ont utilisé le lieu d'adoration de Dieu pour des gains mal acquis. Ils ont finalement rejeté Dieu et ses normes pour le culte et la manière de vivre qui sont données dans la Torah. Et Dieu doit intervenir. Et on verra où c'est. Voilà, ces annonces, ces avertissements qui seront faits d'une manière vivante et très illustrée. Et on verra aussi l'interaction d'Amos. À un moment donné, Dieu dit qu'il va tout détruire, mais Amos dit non, ce n'est pas possible. Et Dieu répond à sa prière, donc il fait entrer Amos dans son plan souverain. Hein, c'est ça qui est aussi extraordinaire, on le verra, mais je n'en dis pas plus pour le moment. On a mis dans la dernière info du mois le plan avec les parties principales, les quatre parties principales. D'abord, donc, ces annonces de jugement pour la première partie. La deuxième partie, les trois prédications contre Israël. La suite, donc, c'est uniquement, principalement sur Israël que ça concerne. Ensuite, la troisième partie avec des visions concernant la destinée d'Israël, vous avez sous les yeux, et la quatrième partie, la glorieuse restauration d'Israël. Voilà, et comme ça une vue d'ensemble, c'est dans l'info du mois, vous pouvez le consulter. Un théologien a donné le thème général ainsi. Une position privilégiée ne protège pas d'un châtiment mérité, mais les décisions de grâce de Dieu demeurent inébranlables. On a ce peuple d'Israël, qui est le peuple terrestre de Dieu, avec ses privilèges, sur lequel Dieu doit intervenir. On ne se moque pas de Dieu. Et on a Amos, ce berger prophète, qui annonce ce message solennel de revenir à Dieu. On peut faire le parallèle avec l'Église, qui est le peuple céleste de Dieu. Le peuple céleste de Dieu. C'est vrai que sur la terre, au niveau de l'Église, on a un mélange. Dans la chrétienté, on a des chrétiens qui sont chrétiens de nom, on a des chrétiens nés de nouveau, des vrais chrétiens. C'est vrai que Dieu voit les cœurs, et sait lesquels lui appartiennent vraiment. C'est l'Église avec ses privilèges où Dieu doit aussi intervenir. Ce qui est beau, c'est qu'on a aussi notre Amos, berger, prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu aussi nous avertir de jugement. Vous lisez les évangiles, le nombre de fois que Jésus fait allusion au jugement. Et Albin a lu au début, ou a fait allusion à Matthieu 24 au début, c'est un des exemples. Le péché ne doit pas rester impuni. Mais ce berger prophète, Amos, il est allé jusqu'au sacrifice de la croix pour prendre sur lui le jugement que nous méritions. C'est pour ça que je dis, on parle du jugement de Dieu. En tant que chrétien, on n'a pas besoin d'avoir peur pour nous-mêmes. C'est Jésus qui l'a porté sur lui à la croix. Et Jésus du ciel maintenant, il lance aussi cet appel comme Amos. Cherchez-moi et tu vivras. Cherche-moi et tu vivras. Et ce théologien donnait comme résumé aussi, celui qui sème l'injustice doit s'attendre en conséquence au jugement de Dieu. Que l'on soit voisin du peuple élu ou lié à lui par la parenté ne change rien à cela. Cette règle vaut aussi pour le peuple élu lui-même. Plus les privilèges sont grands, plus la responsabilité est grande. Cependant, l'échec pécheur de l'homme ne peut empêcher les promesses de grâce de Dieu. Et l'avènement du règne messianique avec toutes ses bénédictions est fixé pour la fin des temps. Et c'est beau parce que ce livre se termine, et c'est par là qu'on va finir ce matin, par un grand saut dans l'histoire, un coup de projecteur sur l'avenir, sur la fin des temps. C'est une espérance extraordinaire, c'est une bonne nouvelle, et je vous propose quelques versets de la fin, comme ça on a bouclé, je peux dire la boucle par rapport à cette vue d'ensemble sur Amos. En ce temps-là, en ce jour-là, où on a ces expressions dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un jour de 24 heures quand il est dit « en ce jour-là ». Et il est parlé du jour de l'Éternel. C'est une période. Tout ça, ça recoupe un même concept, si je peux dire. C'est une période. « Je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. » Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas possible que ce soit le retour de l'exil de Babylone. Ici, à quoi il est fait allusion? Parce qu'après, ils ont de nouveau été dispersés. À la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, ils ont été dispersés dans toutes les nations de la terre. Ici, il est question du grand retour des Juifs, après 18 siècles de dispersion. À la fin des années 1800, début des années 1900, migration des Juifs en Israël, avec la constitution de l'État juif en 1948, après l'Holocauste, qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs. C'est cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je dis, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une année, c'est une période. Ça a duré plus d'un siècle. Mais on est dans cette période-là. Et c'est extraordinaire de voir comment les prophètes de l'Ancien Testament ont tous eu ce regard vers ce nouveau royaume davidique, si on peut dire comme ça, un nouveau roi David, dont le roi David, le premier, c'est une pâle figure, si on peut dire. Et ce nouveau roi David, eh bien, c'est notre Seigneur. Et il régnera à partir de Jérusalem. Et si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, ben vous pourrez voir que vous avez là 1 million de juifs orthodoxes qui ont une attente incroyable par rapport à la venue du Messie. Alors pour nous, il est déjà venu, bien sûr, une première fois, mais il reviendra une deuxième fois. Mes amis, on vit une période extraordinaire. L'histoire, elle est en route. Dieu aura le dernier mot sur ce monde. On a le privilège aussi, nous, d'avoir encore le dernier livre de la Bible, hein, l'Apocalypse. Il parle aussi de jugement en complément de ce qui est déjà là dans l'Ancien Testament. Et ces jugements aboutiront donc au règne de Jésus sur cette terre qui mettra fin au chaos. C'est notre espérance. On s'était posé la question au début, est-ce que Dieu voit l'injustice, la corruption, la pauvreté dans notre monde ? Eh bien, je crois qu'on a déjà quelques éléments de réflexion, des pistes pour ce matin. On en aura davantage lors des prochaines prédications. Alors, je vous encourage à lire ce livre une fois en entier, hein, ou chaque fois les passages qui sont proposés, on en profitera au maximum. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à rencontrer ce Dieu juste et miséricordieux, car sans sa grâce, qui serait là ce matin, en tout cas pas moi, avec cette espérance glorieuse que nous avons. Appliquons-nous à suivre ce Messie, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, avec persévérance, avec les ressources qu'il nous offre, et avec sa grâce quotidienne. Appliquons-nous en attendant son retour aussi à être ses ambassadeurs dans ce monde qui part à la dérive. C'est une belle mission que le Seigneur nous confie. On entendra les Gédéons. Ben, voilà, et pratiquement aussi, ils appliquent cette mission. C'est la mission de toute une vie, ta vie, ma vie. Que Dieu nous vienne en aide. Soyez bénis, chers amis. Amen.
Merci, Pierre. Les Gédéons